FM. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Au fil des siècles, l'astronomie a connu de nombreuses avancées qui ont contribué à élargir notre compréhension de l'univers. La vulgarisation en astronomie permet à toutes et tous, passionnés d'astronomie ou simples curieux, de comprendre les mystères de l'univers. Camille Flammarion a été un des grands vulgarisateurs français de l'astronomie, contribuant à la diffusion des sciences au 19e et 20e siècle. Que reste-t-il aujourd'hui des enfants de la vulgarisation de Camille Flammarion ? Cette nouvelle émission du Labo des Savoirs est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole et leur cycle de conférences « Sciences étonnantes ». C'est une fois par mois et c'est gratuit. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site du Muséum. Pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir Colette Lelay, historienne des sciences et des techniques, chercheuse au Centre François Viette de Nantes Université, et Mathilde Godel, docteur en astrophysique, vulgarisatrice, et médiatrice scientifique indépendante.
Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font ? Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science, de toutes les sciences ? Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous.
Donc, comme dit en introduction, c'est vrai que la Société Nantaise d'Astronomie a été fondée en 1884 par Camille Flammarion et Nantes a été une des premières villes en France à se doter d'un observatoire dès le XVIIe siècle, il me semble, de par son histoire, de par l'existence de son port. Et on avait besoin notamment de former les marins à l'astronomie et à la navigation. Donc Nantes a été vraiment une ville chargée d'histoire en astronomie et Camille Flammarion lui-même a proposé donc la création de la Société d'Astronomie Nantaise qui a précédé la création de la Société Française d'Astronomie. Nantes a toujours eu du coup cette histoire autour des sciences et de l'astronomie en particulier. Donc Camille Flammarion avait un rapport particulier avec les sciences dès son plus jeune âge. Il s'est tout de suite intéressé aux sciences et il a intégré l'Observatoire de Paris très rapidement, il me semble, Colette.
Alors, il a intégré l'Observatoire de Paris en 1860 à titre de calculateur, grâce à une lettre de recommandation, parce qu'en réalité, il n'avait pas véritablement fait d'études scientifiques. Il est né à Montigny-le-Roi, très proche de Langres, et il a fait des études secondaires au petit séminaire de Langres, donc avec très très peu de sciences. Et en particulier, les mathématiques n'ont jamais été sa tasse de thé. Il a toujours eu un petit mouvement de recul, et pendant toute sa carrière, il a eu ce mouvement de recul vis-à-vis des mathématiques. Mais en revanche, il était très très intéressé par l'observation de la nature, l'observation des astres, et c'est ce qui l'a conduit à l'astronomie. Et donc effectivement, il est entré au bureau des calculs de l'Observatoire de Paris en 1860, ce qui l'a beaucoup déçu. Parce qu'il espérait monter aux coupoles et observer, et ça n'a pas été le cas. Il se contentait d'aligner des chiffres sur des feuilles de papier. Il ne s'acquittait pas très bien de sa mission, tant et si bien qu'il a été licencié de ce poste de calculateur. Alors, Camille Flammarion a écrit ses mémoires, les mémoires d'un astronome qui ont été rééditées en 1911, et il a un petit peu tendance à broder sur sa vie. Donc il dit qu'il a été licencié de l'observatoire en 1862 à la suite de la publication de son premier ouvrage, La pluralité des mondes habités. C'est pas vrai, parce qu'on a une lettre dans les archives de l'Observatoire qui montre que son chef de service lui reprochait de ne pas s'acquitter de sa tâche, et Camille Flammarion reconnaissait qu'il n'était pas très diligent et promettait de mieux faire, mais il a quand même été licencié.
Oui, par Urbain Le Verrier. Alors, qui était le directeur.
Ça aussi, c'est une légende. Parce que...
On débunk aujourd'hui.
Bon, Urbain Le Verrier était un directeur de l'observatoire tyrannique et contre lequel Flammarion s'est opposé très très souvent. Mais Urbain Le Verrier ne s'occupait pas des petits calculateurs. Hein. C'est son chef de service qui l'a licencié. Et ça n'est pas du tout Urbain Le Verrier à cause de la publication de son premier ouvrage.
Parce que c'est vrai qu'on a retrouvé souvent dans beaucoup de biographies de Camille Flammarion et même d'études qui ont été faites sur sa vie, oui, qu'il était en conflit permanent avec Urbain Le Verrier et qu'il était en opposition avec la façon dont il menait presque l'Observatoire de Paris.
Tout à fait. Urbain Le Verrier avait réussi à mettre pratiquement tous les astronomes contre lui parce qu'il était tyrannique, et que beaucoup d'astronomes avaient vécu la période précédente, qui était la période de François Arago, qui est le héros de Camille Flammarion. Et donc le choc thermique entre François Arago et Urbain Le Verrier était sévère pour beaucoup.
Sachant que vous nous disiez que Camille Flammarion ne faisait pas ses devoirs de calculateur, en gros, et qu'il avait écrit son ouvrage, notamment La pluralité des mondes habités, en parallèle de son travail. Donc c'était vraiment un travail supplémentaire.
Pendant son travail.
Pendant son vrai travail. Oui. Donc c'était un mauvais chercheur, on peut dire ?
Un mauvais chercheur, je ne sais pas. Un mauvais calculateur,
c'est
certain.
La pluralité des mondes habités, qui était un de ses premiers ouvrages, son premier ouvrage vraiment scientifique, parlait de la présence de la vie sur d'autres planètes du système solaire. Et Camille Flammarion a eu tout au long de sa vie un certain attrait pour tout ce qui touchait le spiritualisme, tout ce qui touchait un petit peu l'ésotérisme. Et est-ce que d'abord c'est vrai ? Mais a priori, oui,
oui,
c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Cet ouvrage, notamment, partait parfois plus dans de la littérature, dans quelque chose d'imaginaire. Est-ce que ça avait... c'est pas ce qui lui avait été reproché par Le Verrier ?
Non, honnêtement, je pense qu'à l'époque où il a été embauché à l'Observatoire de Paris, Le Verrier ne le connaissait pas. Mais à l'époque où Flammarion écrit La pluralité des mondes habités, c'est une thèse qui est partagée par beaucoup de personnes. Donc beaucoup de personnes croient que la plupart des planètes sont habitées, puisque la Terre est une planète comme les autres depuis Copernic. La plupart des planètes doivent être habitées comme la Terre est habitée. Donc c'est assez généralement partagé.
Oui, la notion du spiritualisme telle qu'on l'entend aujourd'hui n'était pas la même à l'époque où il y avait plusieurs scientifiques qui imaginaient presque au pouvoir des esprits, mais d'une façon plus scientifique que ésotérique.
Le spiritisme, c'est autre chose que la pluralité des mondes habités. Hein, la pluralité des mondes habités est très partagée, le spiritisme est moins partagé. Mais il peut être partagé par des savants. En particulier, la figure qu'on cite souvent, c'est Pierre Curie, qui était spirite.
De Pierre et Marie Curie,
oui.
Est-ce qu'on pouvait dire que Camille Flammarion était tout autant littéraire que scientifique ?
Certainement, et il accorde beaucoup d'importance au style de son écriture. Il a un style qu'on a parfois qualifié de rhapsodique, parce que bon, il a des envolées lyriques, et il y tient beaucoup, effectivement.
Même presque, il tiendrait de la poésie ?
Absolument, et parallèlement à son œuvre scientifique, il écrit des romans. Donc les deux dimensions sont importantes pour lui.
Donc Camille Flammarion était tout autant un littéraire qu'un scientifique. Est-ce que c'est peut-être ça qui a fait sa particularité de réussir à écrire des ouvrages de vulgarisation ? On va en parler très rapidement dans la suite, mais qui était différent d'autres scientifiques ou d'autres vulgarisateurs de l'époque ?
Alors, il s'inscrit quand même dans un courant assez vaste. Il y a beaucoup de vulgarisateurs de l'astronomie à la même époque que Flammarion, par exemple Amédée Guillemin. Mais c'est vrai que l'écriture de Flammarion est plus enflammée, plus poétique que l'écriture d'Amédée Guillemin, qui est plus sobre, dirons-nous. Et c'est peut-être ce qui a fait son succès. Mais il y a beaucoup de choses qui ont fait son succès. Il y a aussi le fait, il ne faut jamais oublier qu'il y a deux Flammarion. Il y a Camille Flammarion et il y a son frère Ernest Flammarion. Et Ernest va devenir éditeur. Et donc le fait d'avoir votre frère éditeur, ça vous facilite aussi beaucoup la tâche dans la diffusion de votre œuvre.
Notamment la revue de vulgarisation astronomique L'Astronomie ou d'autres ouvrages qui seront édités par son frère Ernest Flammarion dans... Alors j'ai perdu le nom exact, c'était Astronomie populaire.
Le premier ouvrage qu'Ernest Flammarion a édité de son frère, c'est l'Astronomie populaire en 1880. Et à partir de... Bon, cet ouvrage va avoir un très très grand succès parce que c'est un très bel ouvrage illustré qu'on nous offre en étrenne. Donc ça, il va avoir un gros succès qui va rapporter de l'argent à Ernest Flammarion. Et à partir de là, tous les ouvrages de Camille Flammarion vont être publiés par son frère, que ça soit la vulgarisation ou les romans.
Et il continue néanmoins de fréquenter des cercles de scientifiques, d'être entouré de scientifiques.
Absolument. Et donc, en 1882, ce qui va se passer, c'est qu'il va hériter d'un observatoire, l'observatoire de Juvisy. Et donc, dans cet observatoire de Juvisy, il va s'entourer de jeunes prometteurs, de jeunes astronomes prometteurs. Et il va effectivement... attirer à lui beaucoup d'astronomes et il va essayer aussi toujours de garder des contacts avec des astronomes professionnels et en particulier ceux qui s'opposent à Urbain Le Verrier.
Et en 1982 également, donc, il publie cette revue mensuelle de vulgarisation astronomique, l'Astronomie, qui va continuer de le faire connaître dans cette volonté de rendre les sciences et en plus particulier l'astronomie populaire.
Tout à fait. Mais déjà dans l'astronomie populaire, il incitait tous ses lecteurs, à constituer des sociétés d'astronomie partout en France. Il avait même pris contact avec des fabricants d'instruments pour s'assurer que des amateurs puissent acquérir des lunettes et des télescopes pour ces sociétés. Et donc à partir de 1880, les sociétés qu'on qualifie souvent de sociétés Flammarion vont se développer, et en particulier la société nantaise en 1884.
Ça a été vraiment le précurseur de ce mouvement populaire de réappropriation
de création de sociétés. Parce qu'il y avait d'autres courants populaires, mais d'observation de plein air, par exemple. Mais création de sociétés, c'est vraiment Flammarion.
Est-ce que cette création de sociétés s'est faite avec les amateurs, mais aussi avec les scientifiques ?
Selon le cas, oui. Ce sont des sociétés locales, donc comme à Nantes. Donc à Nantes, si on a un astronome, il va faire partie de la société très naturellement. La société France d'astronomie de la SAF, la Société d'astronomie de France, qu'il va créer en 1888, il aura toujours à cœur d'avoir des présidents qui sont des scientifiques pour obtenir une espèce de caution scientifique de son travail.
Donc il continue de vouloir créer finalement ce lien entre la pratique amateur et les scientifiques.
Oui, c'est aussi un homme complexe qui a besoin de reconnaissance. Et donc, par le canal des relations qu'il va se créer, il va pouvoir présenter des travaux à l'Académie des sciences à Paris et il aura toujours à cœur d'essayer d'être aussi un scientifique.
Et vous aviez parlé juste avant de François Arago.
Oui.
Fondateur de l'Observatoire de Paris, directeur.
À l'époque de François Arago, on appelle ça directeur des observations. On ne l'appelle pas directeur de l'Observatoire. Le premier vrai directeur de l'Observatoire, c'est Urbain Le Verrier. L'Observatoire a été créé en 1669 dirigé par la famille Cassini pendant des lustres. Et François Arago va y arriver au début du 19e siècle.
Et François Arago a une influence très forte sur Camille Flammarion.
Essentiel, puisque François Arago va animer un cours public d'astronomie à l'Observatoire de 1813 à 1847, qui va donner lieu, à, quand il sera mort, malheureusement, à l'astronomie populaire. Donc il va, et Camille Flammarion va reprendre ce titre, Astronomie populaire, en hommage à François Arago, qu'il considère comme son héros.
Est-ce que Astronomie populaire, donc les premiers tomes qui avaient été publiés par François Arago, oui, et sont similaires aux tomes qui ont été publiés par Camille Flammarion, est-ce que c'était vraiment dans la continuité? Il y avait la même philosophie?
Non, c'est assez sensiblement différent. C'est-à-dire que l'astronomie populaire d'Arago est issue de son cours. Donc, il donne un cours public d'astronomie. C'est un astronome, c'est un savant. Donc, il donne un cours et il le traduit sous la forme d'un écrit, ces volumes de l'astronomie populaire. Entre-temps, il a aussi publié de nombreuses notices. Il a une œuvre de vulgarisation importante. Qui est assez sensiblement différente. Il n'a pas ce style très, très enflammé de Flammarion. Il a un style beaucoup plus sobre. Et bon, ce sont des ouvrages à cheval entre l'ouvrage scientifique et l'ouvrage de diffusion.
Camille Flammarion n'aimait pas particulièrement les mathématiques. Oui. Les ouvrages de M. Arago étaient vraiment des ouvrages scientifiques avec des équations, des démonstrations?
Non, pas. Ce sont des astronomes. C'est une astronomie populaire, donc il n'y a pas d'équations, mais il y a beaucoup de chiffres. En revanche, leur caractère est plus scientifique que la prose de Flammarion, je crois.
Et Flammarion.
Et ça correspond aussi à une époque différente. Donc, par exemple, l'astrophysique, elle naît après la mort d'Arago. Donc, il n'y a pas d'astrophysique dans les ouvrages d'Arago. En revanche, il y en a dans les ouvrages de Flammarion qui est intéressé par l'astrophysique.
Et il a vraiment, vous l'avez dit, cette prose, une façon d'avoir un récit, quelque chose de presque narré dans son astronomie populaire.
Oui, tout à fait. Oui, absolument.
Est-ce qu'on se rapprocherait plus de la vulgarisation telle qu'on l'imaginerait aujourd'hui que celle qui avait été produite par Arago?
Je pense qu'on a toujours, enfin je ne sais pas ce qu'en pense Mathilde, on a toujours des manières différentes de vulgariser et des auteurs qui vulgarisent de manière différente. Et donc ce sont deux manières différentes, enfin ce sont deux personnages différents avec des manières différentes de vulgariser, mais partageant le même objectif, c'est-à-dire de diffuser au plus grand nombre leur science.
Oui, je suis totalement d'accord. Il faut s'adapter aux différents niveaux aussi de connaissances du public, et donc on va avoir des gens qui viennent découvrir. Donc là, peut-être va falloir beaucoup vulgariser et enflammer le récit comme Flammarion. Mais après, par exemple, on a des gens qui s'y intéressent déjà, qui se renseignent par eux-mêmes. Et donc là, on peut avoir des conférences un peu plus pointues, par exemple, pour citer des conférences ou d'autres choses. Donc oui, effectivement, on va avoir un médium comme ça de vulgarisation assez différent à chaque fois.
Avec toujours cette même volonté de vouloir diffuser les sciences au plus grand nombre et de participer presque au progrès scientifique, hein.
Aujourd'hui, je pense que c'est un autre but que le progrès scientifique. Je pense que c'est plus un but politique, à mon sens. Je fais un shift assez violent, peut-être collègue. Mais avec tout ce qui a été traversé, notamment pendant le Covid, par exemple, où on a vu des choses, beaucoup de fake news, pourtant propagées par des gens avec l'argument d'autorité, médecins. Il y a tout ce qui se passe autour du réchauffement climatique, quand même, qui n'est pas entendu, alors que la communauté scientifique alerte. Donc il y a plein de choses comme ça. Et donc là, ça va être plus comment on redonne le pouvoir au peuple. D'avoir connaissance déjà de ce qui se passe réellement, de ce qui est réellement, par exemple, le réchauffement climatique, une épidémie, l'astronomie, etc., pour redonner le pouvoir au peuple, les connaissances, et imaginer prendre les meilleures décisions. Et pour ça, il y a un exemple quand même assez flagrant, c'était la commission où on avait pioché parmi le peuple français 100 personnes pour faire une commission sur le réchauffement climatique avec les règles qu'il fallait sortir à la fin, où c'était des scientifiques qui étaient venus justement expliquer qu'est-ce que le réchauffement climatique, etc., pendant quand même, je crois bien, une bonne semaine. Et à la fin, les gens étaient tous quasiment convaincus. Donc ça montre en fait à quel point le pouvoir de l'information peut avoir en fait une influence aussi sur la suite, sur des choix politiques, sur la prise en main de certaines décisions.
qui consommait, entre guillemets, la vulgarisation du temps de Arago, du temps de Flammarion? Est-ce que c'était l'ensemble de la population? C'était plutôt la bourgeoisie, les ouvriers, les ouvrières?
Alors, du temps d'Arago, c'est essentiellement la bourgeoisie, effectivement, la bourgeoisie éclairée. En revanche, il y a énormément de gens qui fréquentent ce cours public. Hein. C'est l'amphithéâtre contenait 600 personnes. Donc, c'est quand même... Et il y avait 3 heures de queue.
Ah oui.
Et donc...
On a de la marge.
Oui, donc effectivement, c'était fréquenté par un public de bourgeois, pas forcément des grands bourgeois, ça pouvait être, et des employés aussi, qui pouvaient se permettre de se rendre à l'observatoire pendant la journée, donc il fallait, c'était pas toujours facile. À l'époque de Flammarion, c'est beaucoup plus varié, beaucoup plus ouvert, mais Flammarion est quelqu'un qui a quand même un petit caractère élitiste. Donc, c'est pas forcément vers les ouvriers qu'il va se tourner. Hein. Il se tourne vers un public beaucoup plus large que qu'Arago, mais pas vraiment vers le public ouvrier. En revanche, il y a des vulgarisateurs à la même époque que Flammarion qui vont s'intéresser au public ouvrier et qui vont ouvrir des cours publics dans les mairies en particulier ou des bibliothèques populaires. Donc, il y a aussi ce courant-là à la même époque que Flammarion.
Est-ce que l'écriture et la création de ces ouvrages, de ces petits ouvrages, parce qu'Astronomie populaire
C'est un gros.
Est un gros, mais il a également écrit
des petits ouvrages,
ouvrages de vulgarisation avec son frère, pour son frère Ernest.
Oui.
Est-ce que c'était pas en quelque sorte une réponse ou un moyen de justement diffuser plus largement sa vulgarisation?
Oui, certainement. Et la revue L'Astronomie dont vous avez parlé a été aussi un canal. Et la revue, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, la revue L'Astronomie, c'était aussi une revue de dialogue avec les sociétés astronomiques qui se répartissaient sur... non seulement en France, mais aussi à l'étranger. On a créé beaucoup de sociétés Flammarion, en particulier en Amérique du Sud. Donc il avait des correspondants un petit peu partout qui lui renvoyaient des observations. En particulier des observations d'éclipses, de comètes, ce type d'observation, de taches solaires, ce type d'observation que les amateurs pouvaient mener à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc c'était des revues d'échanges entre l'information que Flammarion diffusait et l'information qu'il recueillait de ses correspondants. Et je profite de cette occasion pour dire que la correspondance de Flammarion, qui est très très abondante, va être rendu disponible par un nouveau projet de recherche de type IMAN. Donc il y a une plateforme IMAN sur la correspondance de Flammarion. Donc on peut voir toutes les personnes qui échangent avec lui et qui lui envoient des résultats scientifiques.
J'imagine que dans cette correspondance, on peut voir également le rôle des amateurs et des amatrices dans le monde entier qui ont pu contribuer aussi.
Ce sont des amateurs.
Ce sont des amateurs.
Ce sont des amateurs qui lui envoient des informations. Parce que, bon, à l'époque de Flammarion vit à une époque où on a, jusqu'en 1860, la science reine en France, c'est ce qu'on appelle la mécanique céleste, c'est-à-dire le calcul des trajectoires à l'aide du calcul différentiel que Flammarion déteste. Et il y a la naissance de l'astrophysique dans les années 1860 qui l'intéresse et la traditionnelle astrométrie. Et donc ce que fait Flammarion, c'est plutôt de l'astrométrie et de l'astrophysique naissante.
éveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des Savoirs.
On parlait de la bibliothèque des merveilles.
Oui.
D'avoir ce rôle de la vulgarisation vers l'ensemble de la société, de la rendre accessible. Mm-hmm. Donc, avec des conférences, on a vu que c'était plutôt la bourgeoisie, que c'était plus difficile de se rendre à l'observatoire pour assister à ces cours. Donc, c'est-à-dire que depuis le départ, depuis les années 1800, 1900, les ouvrages de vulgarisation ont un rôle dans la dissémination des sciences auprès de la société.
Oui, oui, incontestablement, il y a même au XVIIIe siècle, on cherche à diffuser la science on considère souvent que c'est Fontenelle le premier. Donc 1686, les entretiens sur la pluralité des mondes. Et donc à partir de ce moment-là, on cherche à diffuser la science auprès d'un public qui va s'élargir au fil du temps. Donc à l'époque de Fontenelle, c'est un public de grands bourgeois et d'aristocrates. Mmh. Chez Arago, c'est un public plutôt de petits bourgeois. Et puis après, ça va vraiment se démocratiser à la fin du 19e siècle et ça va toucher toutes les strates de la population.
Donc plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, ça intéresse tout le monde.
Oui, et la période phare, ce qu'on appelle l'âge d'or de la vulgarisation, c'est entre 1860 et la guerre de 14. D'accord. Ça correspond aussi à une période où l'enseignement n'est pas... À partir de 1902, l'enseignement va devenir plus scientifique. C'est-à-dire, jusqu'en 1902, il y a assez peu de sciences dans l'enseignement. Donc, la vulgarisation scientifique occupe un vide de l'enseignement et se construit souvent en opposition à l'enseignement. C'est-à-dire qu'on parle de sciences amusantes, de sciences distrayantes par rapport à ce que pratique l'enseignement. Et à partir du moment où l'enseignement va vraiment prendre en charge l'enseignement des sciences, la vulgarisation va petit à petit dégringoler.
Et cette vision de science amusante, c'est celle des scientifiques de l'époque ?
Non, parce que on peut considérer... ce que je dis est un peu schématique, vous me pardonnerez. La première partie du 19e siècle, jusque dans les années 1860, un certain nombre de savants vulgarisent. C'est un courant qui est né un petit peu avec la Révolution française. Qui a dans la suite de Condorcet. Donc beaucoup de savants comme Arago vont vulgariser. À partir de 1860, ce sont des vulgarisateurs professionnels, des journalistes, des écrivains qui vont prendre en charge la vulgarisation et il va y avoir de moins en moins de savants qui vont vulgariser eux-mêmes. Donc, il y a vraiment un changement dans ce qu'on appelle l'âge d'or de la vulgarisation qui est pris en charge par des professionnels.
Est-ce que ces professionnels... restent des scientifiques ou ce sont des personnes issues d'autres mouvements, des littéraires ?
Les deux, mon capitaine.
Les deux.
Et il y a un certain nombre d'enseignants, par exemple, qui vont prendre en charge la diffusion des sciences. Il y en a un certain nombre. Il y a aussi des scientifiques et il y a des journalistes qui ne sont que journalistes.
Donc déjà, à l'époque, la vulgarisation a été prise en charge, a été menée de front par plusieurs professions. Ce n'a pas été des phénomènes isolés.
Tout à fait.
Ou réservés aux scientifiques. Il y a eu dans cette période-là, il me semble aussi que Jules Verne, on est obligé de parler de Jules Verne, on est à Nantes tout de même. Comment échapper à Jules Verne ici a eu un rôle aussi dans la popularisation et dans la vulgarisation dans ses ouvrages qui étaient... fortement imprégné des découvertes scientifiques de l'époque.
Jules Verne était un grand lecteur de la vulgarisation scientifique. Bon, il avait un contrat avec Hetzel qui le contraignait à diffuser les sciences de son époque, mais c'était un grand lecteur de vulgarisation scientifique et il se tenait au courant des développements. Et il y a quelque chose d'intéressant entre Jules Verne et Flammarion, puisque Flammarion reprochait à Jules Verne son peu de sérieux scientifique. Donc Jules Verne a toujours eu à cœur de se trouver des conseillers scientifiques parce que, pas plus que Flammarion, il n'avait fait d'études scientifiques. Donc, il a eu à cœur tout le temps d'avoir des conseillers scientifiques pour ses ouvrages les plus scientifiques. Et Flammarion, en particulier, lui a reproché de ne pas avoir mis d'habitants sur la Lune dans son cycle lunaire, dans De la Terre à la Lune et autour de la Lune. Il aurait souhaité avoir des sélénites et il n'y en a pas dans les romans de Jules Verne qui étaient beaucoup plus prudents que ne l'était Flammarion.
Est-ce que Jules Verne avait presque une approche très scientifique de ses ouvrages en les faisant relire ou en s'imprégnant de sources par les scientifiques?
Alors, dire qu'il a une approche scientifique, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tous les cas, il s'assure d'avoir des relecteurs ou des conseillers qui vont l'aider quand il en a besoin.
Donc cette approche par le merveilleux de l'astronomie, d'avoir tout cet imaginaire qu'on connaît bien qui est lié, et de l'utilisation du récit et du roman a servi la vulgarisation et a servi à émerveiller...
Certainement, on a des témoignages de lecteurs, oui.
Qui ont peut-être se sont lancés dans les sciences grâce à Jules Verne.
Tout à fait.
Donc il y avait un rôle prépondérant vraiment dans la vulgarisation.
Peut-être pas, mais il a eu un rôle incontestable.
Est-ce que on peut dire qu'il y a aussi ce rôle-là de l'imaginaire ou peut-être plus largement des films, des séries aujourd'hui, de la pop culture en général, qui font qu'il y a plein de gens qui sont en contact. Alors ici avec l'astronomie et l'astrophysique, et qui veulent se lancer peut-être après dans des carrières.
Alors ça, des films, films, séries, non mais même romans, c'est quand même la science-fiction, le voyage dans l'espace, c'est quand même un thème qu'on retrouve très rapidement dans toutes les œuvres artistiques, dans les best-sellers par exemple, Star Trek, Star Wars, voilà, donc très vite, je pense que c'est parce que l'être humain a peut-être une âme d'explorateur et n'aime pas forcément les limites, donc je pense que très vite l'imaginaire va vers d'autres planètes, d'autres étoiles, etc. Ne serait-ce que les images aussi maintenant d'astronomie qui sont extrêmement belles. On arrive à faire des très très belles images, et par exemple la moitié des chercheurs et chercheuses en astrophysique maintenant sont des gens qui ont été biberonnés toute leur vie avec les images, à avoir des images, à tester au télescope, voir de leurs yeux, etc., etc. Donc il y a une bonne moitié en astrophysique où c'est que ça, donc l'émerveillement en fait des images, et l'autre moitié, on va dire, c'est des physiciens, physiciennes pure souche plus matheux, etc. Mais voilà, donc cet émerveillement, effectivement, quand même, ça a beaucoup d'impact sur les vocations, en fait, de carrière dans la recherche. Et aussi dans le rendre des comptes aussi au niveau des gens, en fait, du grand public. C'est-à-dire que quand on dit, on a passé 20, 30 ans à faire un télescope qui a coûté je ne sais combien de milliards qu'on a envoyé, etc., il y a beaucoup de personnes qui vont dire mais à quoi ça sert tout ce que vous faites, et en fait d'avoir les images et de pouvoir montrer vous voyez là c'est une galaxie qu'on n'avait jamais vue, premier trou noir qui a été formé, je parle JWST notamment, les toutes premières galaxies, et en fait de comprendre que du coup on connaît absolument rien sur la formation des trous noirs, la formation des galaxies grâce à ces images. Ça permet de justifier, de montrer l'intérêt, c'est en fait la question ultime quand même de l'astrophysique, l'astronomie, c'est vraiment pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi il y a de la vie sur Terre, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc en fait, c'est vraiment un puzzle qu'on essaye de reconstituer, il y a le Big Bang, etc. Et chaque chercheur, chercheuse, chaque étude, chaque instrument de mesure permet d'apporter une micro-pièce à ce puzzle-là pour répondre enfin à cette fameuse question et aussi est-ce qu'il y a de la vie ailleurs. Grosse question.
Donc finalement, les questions qu'on pouvait se poser à l'époque, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs sur Terre, est-ce que nous avons des mondes habités pluriels, les questions sont les mêmes, on n'a toujours pas les réponses.
Non, on n'a toujours pas la réponse, et on peut se poser la question, est-ce qu'un jour on aura les réponses?
Et on a des images pour rêver.
Et par exemple, c'est vrai que dans les films, on retrouve beaucoup cette notion de un jour on pourra voyager. Et les films et même les romans, je pense, essayent de proposer des solutions à des problématiques. Par exemple, comment voyager vers des étoiles qui sont à des milliers d'années? On n'a qu'à se cryogéniser. Et après, ça peut donner des idées, en fait, peut-être à la recherche aussi. Donc, par exemple, est-ce que la cryogénisation, c'est possible? Je vous spoil tout de suite, non. Mais voilà, donc ça donne des idées, ça peut donner des pistes de recherche, pourquoi pas. Donc c'est quand même ça, l'imagination, de toute façon, c'est la clé de la recherche. D'essayer de comprendre des choses. On n'a pas été témoin de ce qui s'est passé. Donc il faut forcément, si on est bloqué à une étape, on ne va pas rester bloqué, il va falloir imaginer autre chose pour essayer de prouver autre chose. Enfin, ça va être, c'est un travail de fourmi.
Et les images contribuent vraiment à essayer de s'imaginer, de continuer à nourrir notre cerveau de ces belles images, donc, ou les ouvrages. On peut penser à même à Tintin. Je pense que tout le monde a déjà vu peut-être la fameuse fusée de Tintin, alors qu'on n'avait pas encore marché sur la Lune, que la fusée existait déjà. L'image a toujours été un vecteur important de discussion et de vulgarisation, même au temps de Flammarion.
Alors, un certain nombre d'ouvrages étaient très illustrés. Bon, les ouvrages illustrés étaient un peu plus chers, mais on arrive à une période où on peut diffuser des illustrations et des photos à moindre coût. Et donc, il y a aussi une révolution du livre à l'époque de Flammarion qui contribue au succès de cette vulgarisation illustrée.
L'astronomie et l'astrophysique ont toujours été des sciences qui sont assez récentes, mine de rien, et qui évoluent vite. Et qui plus est, en ce moment, on est avec les missions spatiales, avec beaucoup de choses qui, même les méthodes de calcul, les possibilités sont infinies. C'est une science qui avance vite, et ça veut dire qu'on a besoin, on aura toujours besoin des scientifiques pour faire de la vulgarisation. On a besoin vraiment d'être au courant des dernières avancées, des dernières découvertes, des dernières compréhensions, pour pouvoir rendre au public où est-ce qu'on en est dans l'univers et sur Terre.
D'autant plus, post-Covid, il y a vraiment le dialogue science-société qui est en train de se mettre en place. Maintenant, dans tous les appels à projets qui financent des gros projets, il y a toute une thématique sur la communication à l'extérieur des résultats de manière vulgarisée. Donc ça, c'est quand même c'est quelque chose qu'on voit émerger de plus en plus. Il y a de plus en plus de labos qui ont des centres de communication. Donc ça, hyper important. Donc on a besoin des savants, effectivement, pour le savoir, en gros, la connaissance. Mais après, tout ce qui est médiateur, vulgarisateur, ça va être pour les méthodes pédagogiques. Parce que clairement, enfin, je sais pas, si vous êtes allé à l'université, etc., les profs à l'université, des fois, qui sont des enseignants-chercheurs, des fois, c'est catastrophique. Donc voilà, c'est comment mettre ça en lumière, rendre ça accessible, effectivement, sans équation, puisque voilà, on n'a pas envie. Comment rendre ça ludique, pourquoi pas. Sous forme de jeu, ça se commence à se calmer, mais tout ce qui était escape game, etc., ça a pris quand même une grosse ampleur au niveau des sciences, etc. Maintenant, il y a les réseaux sociaux de plus en plus. Je pense à TikTok, il y a beaucoup de vulgarisation sur TikTok, sur YouTube. Là, les réseaux sociaux permettent un autre moyen de communication et de partage des sciences. Là, on a les podcasts qui commencent à reprendre... reprendre la main, donc voilà. Donc tous ces moyens de communiquer, ça va être plus les vulgarisateurs, les médiateurs scientifiques, alors que les tout ce qui est chercheurs, chercheuses ont envie, mais n'ont pas forcément le temps, parce que le travail de recherche prend énormément de temps, et s'il y a de l'enseignement à côté, et la capacité en fait de bien
bien transmettre,
ouais, c'est ça s'apprend. Avec des mots simples, parce que c'est souvent des gens très passionnés aussi, et donc ils peuvent vite s'enflammer et aller dans des termes et des détails très très techniques. C'est chouette quand on connaît, mais c'est vrai qu'ils peuvent perdre du coup les personnes après en face.
Oui, les envolées lyriques ne sont pas du seul ressort de Flammarion. Les scientifiques de nos jours aussi sont tout à fait capables de partir dans des envolées également. Est-ce que ces scientifiques ont aujourd'hui et peut-être aussi au 18e et 19e siècle été accessibles directement au public, ou ça reste un petit peu cette petite partie de la population qui possède le savoir et à qui le grand public ou la majorité des personnes n'ont pas forcément accès? Question pour deux périodes historiques différentes.
Mais je pense qu'actuellement, on essaye de casser cette barrière, mais c'est très compliqué. Parce qu'avant, ça appartenait quand même à une élite. Mais j'aime pas ce terme d'élite, mais ça reste, en fait, les chercheurs et chercheuses restent quand même des créatures très étranges, un peu en marge de la société, assez inaccessibles, qui sont un peu dans leur monde, qui vivent pour leur science, qui ont un discours très vite inaccessible, voilà. Donc un peu des créatures étranges. Et c'est vrai, comment rendre le chercheur et la chercheuse accessible avec Enfin, c'est en fait c'est une grosse question, et justement avec ces dialogues science-société qui essayent de se mettre en place, il y a quand même une volonté de faire sortir les chercheurs et chercheuses de leurs laboratoires, ou de rendre les laboratoires accessibles, notamment avec les fêtes de la science, des choses comme ça. Donc ça c'est chouette, mais encore faut-il que ce soit c'est forcément accessible à des gens qui sont à côté de laboratoires, donc forcément dans les grosses métropoles. Donc il y a quand même cette histoire de comment on rend accessible vraiment à tout le monde, peu importe la localisation, etc.
Donc c'est là que le rôle du médiateur, de la médiatrice ou de la vulgarisation en général de nos jours a une place très importante, de faire ce lien entre les scientifiques et le public.
Exactement. Là, on rajoute une pièce à l'édifice où justement il faut quelqu'un qui puisse avoir accès à ces gens, donc qui connaissent le milieu, mais en même temps des connaissances en termes de communication, pédagogie, jeu, peut-être côté ludique, pour faire en fait descendre en fait l'information et la rendre accessible en fait à absolument tout le monde, et pas que ça reste coincé un peu dans une tour d'ivoire et justement faire trop nous on est les savants, etc. Parce que la conviction aussi, je pense, là je vais parler un peu au nom de tous les vulgarisateurs et médiateurs, mais la conviction des gens qui font de la médiation, de la vulgarisation, c'est que la science est accessible à tous, en fait. C'est juste que peut-être c'est très très mal expliqué à l'école. C'est pas peut-être, c'est même sûr. C'est que moi j'ai une anecdote, c'est quand je disais à tous mes anciens camarades de lycée que je continuais de la physique à l'université, ils me regardaient tous et ils étaient tous traumatisés, ils me racontaient tous la même histoire, mais comment tu peux faire de la physique alors que le plan incliné machin là, ou le truc avec les forces on comprenait rien, c'était horrible. Et du coup ça a traumatisé des gens, et donc ils pensent que la physique et les maths c'est pas du tout pour eux, parce que en France on est quand même très cartésien, très équation, très voilà, donc ça bloque beaucoup de gens. Et donc le rôle en fait de la médiation scientifique, de la vulgarisation scientifique, ça va vraiment être de dire aux gens, bah voilà, en fait, on vous explique les notions, et je suis sûre que tout le monde en fait dans cette salle, par exemple, peut tilter en 30 secondes en fait ce qui se passe. Et bizarrement, les questions des gens émergent très naturellement sur plein de phénomènes, et ça vient très naturellement. Donc en fait, c'est peut-être le moyen dont on explique les choses à l'école qui ne va pas, enfin, qui ne convient pas à tout le monde.
Est-ce que finalement tout le monde pourrait devenir vulgarisateur ou vulgarisatrice de sa propre expertise et contribuer d'une certaine façon à l'émancipation, à la connaissance, à la diffusion des sciences dans la société ?
J'ai envie de dire oui et non. Je pense que c'est possible pour tout le monde. Donc je pense que s'il y a des chercheurs, il y en a plein, hein. Je connais par exemple Roland Luc en astronomie, et lui il est pas, en fait il fait que ça maintenant, il est payé pour faire ça parce qu'il a une âme, voilà, humour, il a une âme, il prend la science-fiction pour essayer justement de faire un lien avec la réalité, est-ce que c'est possible ou non d'avoir des planètes comme ça, comme de ce qu'on voit dans Interstellar par exemple. Mais donc il faut avoir quand même des capacités pédagogiques que tout le monde n'a pas. Après, je pense que on pourrait former par exemple des gens avec des connaissances pour. Ça, je pense que c'est tout à fait possible. Encore faut-il que tout le monde le veuille. Mais donc c'est pour ça le oui, pour moi oui. Mais le non, parce que je pense que c'est pas forcément une envie de tout le monde et des capacités aussi de tout le monde.
Alors, on s'était gardé cette question, mais aujourd'hui, à quoi ça ressemble finalement la vulgarisation en astronomie et en astrophysique par rapport à l'époque de Flammarion, où ça passait par des ouvrages, ça passait par des conférences, ça passait par des cours publics. Et je pense qu'il n'y avait pas encore les podcasts ni TikTok à l'époque. Mais à quoi ressemblent aujourd'hui les grands canaux de diffusion de l'information scientifique en astronomie ?
On garde les mêmes canaux, parce que c'est vrai que les livres, on continue d'écrire des livres de vulgarisation. Les conférences, on a des conférences grand public ou de vulgarisation. Donc ça reste, c'est vraiment des canaux un peu immuables, traditionnels, on aime bien. Mais après, c'est vrai que, et ça c'est chouette, il y a des gens qui s'approprient des nouveaux moyens de communication, donc avec des articles vulgarisés par exemple. Donc il y a de plus en plus de sites internet qui répertorient plein d'articles vulgarisés scientifiques. Je pense à Papier Mâché, je ne sais pas si vous connaissez par exemple. Oui, les podcasts. Où on interview des chercheurs, chercheuses, et donc là, ça va être avec la parole, ça va être raconter une histoire. Ensuite, YouTube, ça a beaucoup, beaucoup fonctionné. Il y a plein de médiateurs et médiatrices scientifiques qui ont émergé sur YouTube, et donc forcément, ça leur donne une porte d'accès après vers les réseaux sociaux. Après, je sais que de plus en plus de vulgarisateurs essayent de s'approprier, par exemple, Instagram et TikTok, mais le problème... Non, peut-être n'en est pas un, mais c'est les formats très très courts. Donc ça veut dire arriver à capter l'attention, puisqu'il y a quand même une tendance à l'immédiateté, donc à scroller. Mais comment capter l'attention avec peut-être une info pour donner envie ensuite d'aller faire des recherches après. Mais ça se trouve, c'est un moyen, c'est sûr que c'est un moyen pour toucher les plus jeunes. Parce que toutes ces plateformes YouTube, etc., je pense que c'est plus du tout moins exploré par les jeunes, alors que TikTok, Instagram, c'est sûr qu'on touche le public plus jeune.
Et il y a cette particularité de la vulgarisation et de ces vulgarisateurs et vulgarisatrices qui personnifient, qui mettent leur image en avant pour expliquer des concepts, alors que la science, qui se fait dans les labos, la recherche, c'est souvent un groupe de personnes. Cette image de groupe uni qui publie, qui travaille pendant des années, tandis que on associe une personne, Flammarion lui-même, qui va nous raconter des choses, qui va dérouler un récit. Donc que ce soit Flammarion ou les vulgarisateurs et vulgarisatrices d'aujourd'hui, on a toujours cette image de personnification.
Oui, parce que comme Flammarion, qui apparemment cherchait un peu de reconnaissance dans le public, etc., je pense que ça va être un peu la même chose. Alors pas forcément pour le côté reconnaissance, mais chaque médiateur, vulgarisateur va avoir un peu sa patte. Il faut savoir communiquer. Pour intéresser le public, faut peut-être avoir un certain charisme. Comme pour écrire un livre, faut apporter quelque chose quand même de spécial, de pour retenir l'attention des gens et peut-être les faire revenir et de bouche à oreille, etc. Donc, forcément, par exemple, quand on a des personnalités comme Roland Lehoucq, les gens connaissent tout de suite et ils personnifient en fait une façon de faire. Parce que c'est lui qui a initié cette façon de faire, ça marche extrêmement bien, pourtant c'est assez soutenu au niveau de l'astronomie qu'il y a derrière, etc. Et de plus en plus de gens le connaissent, donc c'est une image, comme il travaille au CEA, c'est vraiment le vulgarisateur du CEA, de Paris-Saclay, voilà.
Et on a eu pendant très longtemps également Hubert Reeves.
Exactement.
Qui nous a quittés l'année dernière, mais qui personnifiait aussi cette image de compteur des étoiles et qu'on voyait même dans les médias. Les vulgarisateurs et les scientifiques restent rares dans les médias, avec la nuit des étoiles notamment, qui ont existé pendant plusieurs années. Et il y a toujours eu finalement au fil des années cette personnification, cette identification des scientifiques et des vulgarisateurs et des vulgarisatrices.
Oui, Hubert Reeves, grosse figure de la vulgarisation, et lui, il avait un talent, je trouve, c'est de parler vraiment à différents types de populations, parce qu'il écrivait aussi bien des livres d'histoire pour enfants, mais vraiment à partir de 4-5 ans, jusqu'à faire des conférences en fait très grand public ou pour des amateurs assez connaisseurs, et donc il avait quand même il arrivait à toucher ce panel de public qui était quand même très très impressionnant, et ça je pense que ça démontre le travail derrière, la carrière qu'il a eue et l'envie en fait, et puis même les sujets qu'il abordait avec la biodiversité, le réchauffement climatique, etc. Donc c'est voilà.
Et ces personnes-là ont un rôle aussi pour susciter des carrières scientifiques, pour susciter des vocations.
Bah là, je pense Hubert Reeves, c'était. J'avais un collègue qui me disait que c'était Hubert Reeves en écoutant en conférence, qu'il l'avait incité, parce qu'il avait aussi cette manière de, même en conférence, pour des amateurs déjà assez spécialisés, de quand même raconter toute une histoire, un roman en fait, avec un vrai fil rouge dans la conférence, et pour forcer les gens un peu à se poser des questions métaphysiques. Donc c'était hyper intéressant, et effectivement, ça a marqué beaucoup. De personnes, que ce soit les livres d'histoire pour les petits ou quand, pour des gens plus grands, les conférences, ça a marqué énormément de gens. Donc ça fait effectivement, ça crée des vocations et la boucle est bouclée comme ça, qui ont peut-être à leur tour vulgarisé parce qu'ils ont vu quelqu'un en faire, donc pourquoi pas eux aussi se lancer là-dedans et ils ont vu l'impact que ça avait sur eux, donc forcément il y a une projection après avec le public, donc ouais, ça fait un peu une boucle vertueuse, on va dire.
D'un point de vue historique, avec la discussion qu'on vient d'avoir, avec ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce que la vulgarisation en astronomie a tant changé que ça?
Peut-être oui sur le but. Quel était le but à l'époque de Flammarion de la vulgarisation? C'était vraiment de propager les connaissances ou plus de divertir
Les deux.
Les deux.
Ouais, d'accord. Je crois que c'était les deux. Ouais. Mais bon, ce dont il faut tenir compte aussi, c'est que la science a énormément évolué depuis l'époque de Flammarion et que plus la science évolue et plus elle est difficile à vulgariser et plus il faut avoir de nouvelles armes pour la vulgariser. Et donc voilà.
Est-ce qu'au fur et à mesure, peut-être, on en sait plus et tout le monde a l'occasion d'en savoir plus sur notre univers, sur notre Terre, sur la façon dont l'univers dans lequel on évolue fonctionne et nous permet d'augmenter notre compréhension générale de l'univers par rapport à ce qu'on savait il y a quelques siècles de cela?
Je suis d'accord avec Colette sur le fait que c'est vrai que ça se complexifie de plus en plus. On va vers des mécanismes physiques de plus en plus complexes et à essayer de vulgariser, c'est extrêmement dur. Je pense par exemple, là je vais jeter un mot, le champ magnétique ou des choses comme ça à vulgariser, c'est une horreur. Donc c'est vrai que peut-être à l'époque avec juste la mécaniste céleste, c'est peut-être parlant en images, là champ magnétique très 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 compliqué. Mais pourtant, j'ai l'impression que même si... En fait, c'est comme on répond à une question, mais en fait, ça en ouvre 14 000 autres. Donc, ça s'affine. Mais en fait, on n'a encore rien compris. Hein. Donc, c'est compliqué d'arriver à un constat de voici comment ça fonctionne. Ne serait-ce que le Soleil, par exemple. Le Soleil, c'est quand même l'étoile qui est la plus proche de nous. On l'adore, mais qu'on connaît le moins. On n'arrivait pas du tout à savoir comment ça fonctionne. Le système solaire... Les planètes auraient bougé, on ne sait pas pourquoi. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Et en fait, c'est... Certes, on commence à avoir des choses, on commence à dire, OK, donc ça va comme ça, ça fonctionne comme ça, mais en fait, ça ouvre tellement d'autres questions, et puis on affine de plus en plus, on voit des phénomènes qu'on n'avait pas vus parce qu'on n'avait pas la capacité de les voir, les instruments pour les voir, ou les simulations pour les voir, et en fait, ça complexifie encore plus les choses. Donc c'est, j'ai envie de dire, oui, non, on comprend de mieux en mieux, mais en fait, on comprend de moins en moins.
C'est une belle conclusion. Donc on a encore des siècles et des siècles de vulgarisation à prévoir.
En fait, en faisant de la recherche, on se rend compte à quel point ça se trouve, on ne comprendra jamais, vraiment. Parce que voilà, c'est vraiment le Big Bang, qu'est-ce que c'est? Il n'y a personne qui peut répondre à cette question-là. La matière noire, il y a des gens qui se demandent est-ce que ça existe vraiment? Encore, pourtant c'est un débat qui a été lancé il y a longtemps. Voilà, donc c'est en fait... Ouais, il nous manque plein de choses. Il y a encore de belles années pour la recherche, tout sciences confondues.
Mais il y aura de belles années pour la recherche et plein de sujets pour les futures conférences du muséum, à n'en pas douter. Donc n'hésitez pas à revenir pour les prochaines fois. Merci Mathilde, merci Colette pour cette discussion passionnante.
Merci.
Et merci à vous. Merci à Colette Lelay et Mathilde Godel d'avoir brillamment joué le jeu de la table ronde et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole pour leur accueil. Cette émission a été préparée et animée par Dunia Saez et réalisée par Sophie Potvin. Cette émission est à écouter sur vos applications de podcast ou sur labodessavoirs.fr. Nos actualités sont sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Blue Sky. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
www.radio-g.fr